Bienvenue dans le podcast Féminisme Initial. Ce podcast est présenté en partenariat avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes quatre étudiantes de Sciences Po Paris, Carla, Camille, Colline et Aurore. Nous sommes passionnées par les questions féministes et nous collaborons ce semestre avec le HCE pour la conception de ce podcast. Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre, à la Cité Audacieuse. Merci à ce lieu important de la lutte féministe associative de nous accueillir. Féminisme Initial a pour objectif de démocratiser des termes et concepts féministes pour tous les publics de 7 à 107 ans. Pendant une quinzaine de minutes, nous vous présenterons des mots-clés du vocabulaire de l'égalité et des droits des femmes et nous questionnerons le fond de ces notions avec des invités d'une grande diversité, qu'elles et ils soient élus, chercheuses et chercheurs, institutionnels, militantes ou militants, qui viendront nous apporter leur regard aiguisé sur ces questions. Aujourd'hui, on va vous parler de la notion de diplomatie féministe. Pour avoir un aperçu un peu plus détaillé sur ce sujet, nous avons invité Camille Boutron. D'après le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, la diplomatie féministe est la politique d'un État qui place l'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté et les droits des femmes, la lutte pour l'abolition du patriarcat au cœur de son action extérieure dans l'ensemble de ses dimensions, à la fois dans son aide publique au développement, mais aussi dans son commerce, son économie et sa culture. Le HCE propose ainsi une définition d'une diplomatie féministe qui repose sur 6 principes : le respect des droits, la représentation des femmes, la mobilisation de ressources conséquentes et pérennes, une approche transformative, une organisation institutionnelle dédiée et pérenne, et l'affirmation d'une solidarité avec les femmes en lutte. Les femmes et les filles sont particulièrement touchées par la pauvreté et le changement climatique, et constituent souvent des victimes collatérales dans les conflits, notamment quand le viol et les agressions sexuelles sont utilisées comme armes de guerre. C'est la Suède qui a initié le mouvement de la diplomatie féministe en 2014, quand sa ministre des Affaires étrangères, Margot Wallström, a annoncé que son pays conduirait une politique étrangère féministe. Depuis 2018, la France utilise l'expression de diplomatie féministe pour définir ses actions en termes de politique étrangère. En 2018, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a publié un rapport de stratégie intitulé « Stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2018-2022 ». Dans ce rapport, le ministère affiche l'objectif suivant : intégrer l'égalité femmes-hommes et le genre de façon transversale et systématique au cœur de l'action extérieure de la France. En octobre 2020, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes remet au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi qu'à la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes un rapport intitulé « La diplomatie féministe, d'un slogan mobilisateur à une véritable dynamique de changement ». Ce rapport dresse un état des lieux à mi-parcours de la mise en œuvre de la diplomatie féministe de la France dans le rapport stratégique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et propose 19 recommandations pour poursuivre cette politique publique. Parmi celles-ci, travailler à l'inclusion d'une perspective de genre dans tous les accords commerciaux ou encore porter dans les instances économiques mondiales, notamment le FMI ou la Banque mondiale, la nécessité d'inclure une réflexion sur les enjeux de genre et la participation des femmes.
Bonjour Camille Boutron, merci beaucoup d'être avec nous sur ce podcast. Alors pour vous présenter, vous êtes chercheuse à l'IRSEM au sein du domaine Défense et Société. Vous êtes docteur en sociologie de l'Institut des Hautes Études sur l'Amérique latine. Vous dites vous-même que vous êtes tombée dans la sociologie un petit peu par accident, mais alors quel bel accident puisque vos travaux de recherche portent sur les questions de genre en situation de conflit armé, et plus particulièrement sur la place des femmes dans les organisations armées et leur participation au conflit. Vous êtes passionnée par l'Amérique latine, alors votre thèse a porté sur la participation des femmes au conflit armé qui a dévasté le Pérou entre 1980 et 2000. C'était un travail de terrain sur plusieurs années où vous avez côtoyé les guérillas et les femmes ayant intégré des organisations d'autodéfense dans les zones rurales. Vous avez été convaincue par les études féministes et vous avez notamment été professeure assistante au Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'Université de Los Andes à Bogota, où vous avez mené des recherches sur la participation des femmes à la construction de la paix en Colombie. Alors vos recherches actuelles s'intéressent aux politiques internationales de genre dans le cadre de la paix et de la sécurité internationale, la place des femmes dans les organisations armées, ainsi qu'à l'organisation des rapports sociaux de sexe en sortie de conflit. C'est dans ce cadre que nous vous recevons aujourd'hui. Les études de genre dans les relations internationales soulèvent des questions qui rejoignent celles qui concernent la diplomatie féministe. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Donc ma première question sera, comment évaluer la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans la politique étrangère française ?
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Concernant cette première question, alors c'est difficile de répondre. Comment l'évaluer ? Si vous voulez, il y a deux façons d'évaluer ce genre de choses. Il y a une façon très quantitativiste qui se pose la question de où sont les femmes ? Est-ce qu'on voit des femmes ? En quelle proportion ? Et puis, une question un petit peu plus qualitative, qui est, ok, on voit des femmes, mais que font-elles exactement? Et sont-elles réellement en mesure d'agir, ou en tout cas d'avoir d'être agentes avec la même capacité de puissance que les hommes? Voilà. Ouais. Donc, c'est ces deux questionnements-là qu'il faut avoir. Et il y a encore une troisième autre façon d'envisager les choses. C'est finalement, est-ce que on a réellement une transformation des pratiques de politique étrangère, à la fois dans la façon d'appréhender les problèmes, de les traiter, de conceptualiser des programmes, des interventions, des politiques, de les évaluer, etc. etc. Et donc, toutes ces questions-là nous amènent à réellement faire le point et le bilan. Si vous les posez toutes, vous vous rendez compte qu'on est encore assez loin du compte. Mais c'est tout ça. On a tendance à s'arrêter à est-ce qu'il y a des femmes? S'il y a une femme parmi 15 bonhommes dans un très haut poste, on va dire mais si, regardez, il y a une femme. A-t-elle la possibilité d'agir? Et surtout, c'est pas parce qu'il y a des femmes qu'on est dans une transformation. Une femme peut mener une politique tout aussi patriarcale qu'un homme et vice-versa. Voilà. Donc vraiment, il faut pouvoir avoir une approche depuis différents angles.
Comment réagissez-vous au concept de diplomatie féministe?
Alors pour moi, c'est un peu un buzzword. Je ne suis pas sûre que ça permette que d'aller dans le sens d'une amélioration de l'égalité entre les femmes, les hommes, et de façon générale d'une lutte contre les discriminations. Et pour moi, on est quand même plus dans un affichage, un buzzword. C'est un petit peu comme les entreprises qui se mettent au vert, genre Total. Bon, bah, les États, ils deviennent féministes, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire, il faut faire la différence après entre les États, les structures qui sont des institutions qui se reproduisent et qui sont bien ancrées, et les individus au sein de ces structures. Parce que par contre, il y a des fonctionnaires, des diplomates, tout un ensemble de personnes qui réellement travaillent très fort pour œuvrer à une transformation des pratiques, et que ce buzzword, il est quand même aussi le résultat d'un certain succès dans ces mobilisations et dans ces efforts pour transformer notre grille de lecture du monde. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi.
Et dans votre travail de chercheuse, justement, en Colombie notamment, avez-vous pu rencontrer ce concept ?
En Colombie, moi, là, j'ai un petit peu plus travaillé sur la façon dont l'agenda Femme, Paix et Sécurité, qui en fait se construit sur une série de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies entre 2000 et 2019, la dernière, et qui met en place tout un programme devant permettre une prise en compte systématique de l'égalité femmes-hommes dans la prévention et la résolution des conflits, le maintien de la paix, plus généralement dans les politiques de sécurité internationale, de sécurité, etc. Voilà, moi j'ai surtout travaillé sur la façon dont cet agenda était mobilisé par les diverses organisations féministes mobilisées dans le cadre de du processus de paix en Colombie pour revendiquer une légitimité à participer et à se faire entendre. Là, on peut parler en effet d'une diplomatie féministe dans le sens où, au travers de ces sujets, on voit émerger finalement des nouvelles catégories d'acteurs, qu'il s'agisse de la société civile, mais même au sein des administrations internationales, des États, des grosses ONG, enfin voilà, des nouvelles figures, des nouveaux dispositifs aussi, qui, quelque part, vont permettre une circulation de pratiques un petit peu alternative et différente. Au début des années 2000, on va avoir quand même un tournant avec ce fameux agenda qui précède la mode de la diplomatie féministe. Et là, vraiment, les femmes deviennent un problème public international. Elles deviennent objet de politique publique internationale et de politique publique internationale de lutte contre la violence, en fait, d'une certaine façon.
Quelles sont les différentes étapes de la réorganisation des rapports sociaux de sexe en sortie de conflit?
On s'imagine que, en fait, voilà, le moment de la paix, c'est finalement un moment de libéralisation et de démocratisation, alors que c'est souvent, en fait, un moment où on voit se réaffirmer les valeurs traditionnelles, dont patriarcales, coloniales aussi dans certains cas, classistes, de façon assez figée en fait. Et souvent, alors ce serait un peu basique de dire que les femmes perdent les avancées éventuelles qu'elles ont pu obtenir pendant le conflit, mais en tout cas elles doivent faire face à cette espèce de rouleau compresseur qui veut les remettre à leur place. Si on étudie par exemple les femmes qui ont combattu dans les guérillas, les groupes armés, souvent, elles font face à cette injonction de devoir redevenir des femmes traditionnelles, de pouvoir être acceptées sous condition d'eux. Voilà.
D'accord, très bien. En quoi les femmes jouent-elles un rôle essentiel dans la sécurité internationale et quelles sont les différences surtout qu'on va pouvoir retrouver entre les genres dans la gestion de conflits ?
Alors déjà, partir de l'idée que les femmes jouent un rôle différent et que cette différence est nécessaire et donc on en a besoin, c'est hyper pervers. Juste, les femmes, elles ont le droit, comme tout le monde, d'être des actrices du monde dans lequel elles vivent, en fait. Hein. Voilà. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de cet argumentaire de la complémentarité, de ce qu'apportent les femmes, etc. Il est beaucoup mobilisé. C'est une stratégie difficilement contournable si on veut faire avancer les choses. Donc, je ne critique absolument pas les personnes qui l'utilisent. Mais je rappelle que c'est une stratégie et que ça ne correspond pas nécessairement à une vérité. Oui, les femmes, elles ont, enfin, beaucoup, les femmes, et encore, les femmes, c'est pas un bloc homogène, hein, encore une fois, là, c'est pour être rapide, mais ont une socialisation, une expérience, une façon de vivre la guerre ou de considérer ce qu'est la sécurité, qui est différente de par leur position de femme, de par cette socialisation genrée, voilà. Mais il n'y a rien de naturel là-dedans, voilà. Je ne suis pas sûre que Margaret Thatcher ait beaucoup fait pour la sécurité internationale. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, okay. Par exemple. Donc, voilà. Donc, elles ont leur place. C'est une question de droit. Voilà. Qu'est-ce qu'elles apportent ? En fait, qu'est-ce que cela apporte de vouloir ? Il ne s'agit pas tant de mettre des femmes, d'ailleurs, que de contester un modèle de pouvoir qui est celui de l'homme en costard, blanc ou riche, technocrate. Enfin, voilà, c'est plus ça qu'on conteste. Parce que la sécurité, elle est juste vue à travers leur prisme, en fait. C'est la sécurité des États, la sécurité des institutions. Alors là, vous avez une littérature immense, hein, sur qu'est-ce que la sécurité quand elle est conceptualisée depuis la place d'une femme paysanne dans la Colombie rurale du début des années 2000. Elle n'aura pas du tout la même définition, forcément, que Emmanuel Macron. Elle va parler de l'exploitation des terres, de la mine à côté, des paramilitaires. Enfin voilà.
Bonjour Jocelyne Adrien-Meptoul, merci d'être avec nous sur ce podcast. Vous êtes la présidente de la coordination française pour le lobby européen des femmes. C'est une ONG de plaidoyer en France, en Europe et à l'international, et aussi un réseau d'une centaine d'associations françaises féministes depuis 2018. Vous avez été la déléguée spéciale aux relations internationales de la mairie de Paris depuis 2014. Vous avez ainsi organisé de nombreux événements internationaux sur la thématique des droits humains et plus particulièrement sur les droits des femmes. Vous maîtrisez le sujet de la diplomatie féministe sur le bout des doigts, puisque vous avez notamment été directrice de cabinet adjointe de la ministre de la Francophonie au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères entre 2012 et 2014, poste au cours duquel vous avez notamment créé, piloté et organisé, pour votre ministre et la ministre des Droits des Femmes, le premier forum mondial des femmes francophones à Paris en 2013, et une deuxième édition qui a été organisée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en 2014. Aujourd'hui, au titre de la société civile féministe, parallèlement au plaidoyer auprès des autorités publiques, vous organisez régulièrement des événements à dimension internationale. Vous avez donc contribué à l'organisation de nombreux événements internationaux en lien avec les droits des femmes. Est-ce que vous avez remarqué que la notion de diplomatie féministe avait une place particulière durant ces événements ?
On peut dire que depuis 4 ans, ça commence timidement à être utilisé. Mais je pense que ça n'a pas... c'est pas parce qu'on désigne quelque chose que tout à coup, ça change la face du monde. Non. Et puis, avec la pandémie qu'on a subie à partir de 2020, encore moins, quoi. Mais disons que ce qui est important, c'est que ça existe, que ça soit qu'on ait désigné une diplomatie féministe. Ça veut dire qu'on assume, ne serait-ce que le mot féministe, qu'il entre dans la diplomatie française, c'est important. Après, il y a un peu de marge entre ce qu'on dit et le fait que ça rentre dans les pratiques professionnelles et notamment des diplomates. J'ai envie de dire que quand j'ai travaillé au Quai d'Orsay et que je disais « Ah, mais c'est Madame l'ambassadrice », on me disait « Ah, mais non, Madame l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur, Madame ». Et donc, ça c'est on continuait à dire Madame l'ambassadeur. Quand on disait pas monsieur, quand il y avait quand même pas mal de machos hein, au Quai d'Orsay. Et je pense que les choses évoluent, mais très très lentement. Et ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, ils n'osent plus. Ils le pensent peut-être encore un peu, certains de ces messieurs diplomates, mais ils n'osent plus le dire. Et maintenant, il est entré dans les mœurs qu'on dise Madame l'ambassadrice. C'est un exemple.
Donc aujourd'hui, vous êtes la présidente de la coordination française pour le lobby européen des femmes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu plus de précisions sur votre travail et sur la manière dont justement cette coordination française s'engage en faveur d'une diplomatie féministe ?
Je pense qu'il y a deux choses, nous, au niveau de la clé. On est donc ONG de plaidoyer d'un côté, donc auprès des institutions, du Parlement, du gouvernement, etc. Mais on a aussi un rôle de sensibilisation du grand public. Je pense que si on reste dans l'entre-soi, on ne fait pas avancer le schmilblick. Et donc c'est très important de faire de la sensibilisation, d'impliquer le plus grand nombre à chaque fois. Donc on a mis en place des rendez-vous réguliers qui sont toujours à dimension internationale. Alors, juste, je précise que par rapport au... nous sommes la coordination française du lobby européen des femmes et que le lobby, lui, qui est basé à Bruxelles, regroupe donc une trentaine de coordinations nationales. Le lobby travaille essentiellement au plaidoyer auprès de la Commission européenne. Je pense quand même que les choses évoluent, progressent lentement, très lentement, mais qu'elles progressent. C'est-à-dire aussi en 30 ans, les choses ont considérablement évolué en termes de société. La mondialisation, la communication, les techniques de communication ont complètement changé. C'est-à-dire que c'est vrai que cette évolution sociétale a impliqué effectivement une recomposition de l'inconscient collectif et de la manière d'être dans notre société. Il y a quand même une évolution. Après, on voit que dès qu'il y a une possibilité, y compris en Europe, pour certains dirigeants de grignoter sur le droit à l'avortement, le droit les droits sexuels et reproductifs, sur les violences, oui, d'accord, mais c'est pas très grave, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut... Il faut qu'on soit toujours très très vigilante parce que très vigilante et vigilant, mais enfin vigilante parce que là on est sûr que ça nous on se sent complètement concerné parce que dès qu'il y a une crise il y a repli et nos droits, les droits des femmes font partie des premiers qui sont jamais acquis. Beauvoir encore une fois avait tout dit là-dessus.
Pour finir, quelles seraient vos propositions, vos recommandations pour rendre la diplomatie française davantage féministe ?
Je pense qu'il y a deux choses. Si on avait des priorités, c'est le gender mainstreaming, ça c'est important. C'est-à-dire effectivement une politique intégrée de genre, parce que sinon, si ça n'est pas à tous les échelons et à toutes les étapes, c'est zappé. On arrive toujours à zapper. Vous avez remarqué comment on zappe vite tout ce qui concerne les droits des femmes ou l'égalité. Et puis le gender budgeting aussi, parce que sans budget, on n'avance pas, malheureusement. Et il faut effectivement qu'on repense les budgets octroyés aux droits des femmes et à l'égalité. C'est-à-dire, donnons-nous l'équivalent du ministère des Sports, par exemple. C'est pas énorme, hein, mais voilà, ça serait bien déjà. Et puis, je pense plus sérieusement, parce que je pense que le ministère des Sports, on n'a pas encore le budget, on a encore un peu de temps à attendre. Je pense qu'il faut aussi former les diplomates, aussi bien ceux qui sont au département au Quai d'Orsay que ceux qui sont en poste partout dans le monde. Et si nos diplomates sont formés surtout en poste, ils sont aussi après porteurs de cette diplomatie féministe.
Merci beaucoup Jocelyne Adrien-Meptou pour cet échange très enrichissant.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci à nos deux invités, Camille Boutron et Jocelyne Adrien-Meptou, d'avoir accepté d'intervenir dans ce quatrième épisode du podcast Féminisme Initial. Pour en apprendre davantage sur la diplomatie féministe, vous pouvez consulter le rapport « La diplomatie féministe, d'un slogan mobilisateur à une véritable dynamique de changement »
disponible sur le site du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le prochain épisode de Féminisme Initial, nous parlerons de l'avortement en compagnie de nos deux invités, Emmanuel Piette et Alban Gaillot. Merci de nous avoir écoutés sur Féminisme Initial.